Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h46, bienvenue sur Sud Radio dans un instant. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel, vos appels 0826-300-300. En attendant, c'est la revue de presse.
Oui, qu'est-ce qui vous fait parler ce matin? On commence par les élections régionales et ces sondages en forme de coup de tonnerre en région PACA. Mariani peut-il gagner? C'est la question posée à la une de la Provence, par exemple, Benjamin.
Oui, parce que le candidat du Rassemblement National donnait vainqueur par deux sondages à moins de 40 jours du scrutin. La Provence évoque notamment le résultat de notre sondage IFOP Fiduciel pour Sud Radio en partenariat avec LCI, Le Figaro. Il s'agit du tout premier sondage en région PACA depuis la tentative de rapprochement de la liste En Marche avec le LR Renaud Muselier. Et alors le RN est donné gagnant quel que soit le cas de figure. Dans l'hypothèse d'une liste LREM maintenue, Thierry Mariani serait à 31%, Renaud Muselier à 27% et Sophie Cluzel à 13%. Dans l'hypothèse d'une alliance LR-LREM, Mariani resterait là encore en tête, 41% des voix contre 39% pour la liste fusionnée entre la droite et la majorité. Ce sondage, on le retrouve aussi forcément à la une du Figaro qui écrit « Le Rassemblement National profite de 10 jours de confusion entre les Républicains et la République En Marche. »
Oui, et du côté de la Dépêche du Midi, ce titre « Vaccination, cap vers les 20 millions ».
Bah oui, c'est l'objectif fixé par le gouvernement pour la mi-mai, une échéance qui se rapproche. L'ouverture de la vaccination aux plus de 50 ans accélère la campagne avec un nouveau record de Français vaccinés battu hier. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des personnes majeures qui pourront prendre rendez-vous en fonction, bien sûr, du nombre de doses disponibles. La Dépêche du Midi, qui, pour son édition du Lot-et-Garonne, nous offre le témoignage exclusif de Philippe Sella, le directeur sportif du club de rugby d'Agen, qui raconte son opération du cancer de la prostate le 27 avril dernier à Toulouse. Les nouvelles sont plutôt bonnes, et même s'il reste encore affaibli par l'opération, eh bien l'ancien international de 59 ans raconte que les premiers prélèvements montrent qu'il n'y aura pas de complications liées à cette opération. Philippe Sella, qui revient également sur la situation compliquée, on le sait, de son club Agen, qui a vécu une année catastrophique, dernier du top 14 et relégué la saison prochaine en Pro D2. C'est en tout cas à lire dans la Dépêche du Midi.
Voilà, c'est ça. Et puis dans le Parisien aujourd'hui en France, il y a ces commerces qui veulent rattraper le temps perdu.
Ben oui, rattraper le temps perdu grâce aux ouvertures dominicales notamment, puisque ceux qui le souhaitent pourront ouvrir 8 dimanches à partir de mercredi prochain et a priori jusqu'à la fin des soldes le 20 juillet. Et puis dans les échos, la Chine rattrapée par le vieillissement. La croissance de la population n'a jamais été aussi faible là-bas. La part des personnes en âge de travailler est en chute libre. La fin de la politique de l'enfant unique n'ayant pas provoqué le baby-boom attendu, eh bien Pékin envisage maintenant un report de l'âge de la retraite, un sujet explosif là-bas aussi.
Oui, merci à vous Benjamin Glaise. On poursuit notre revue de presse avec Yann Marek, rédacteur en chef de Midi Libre. Bonjour Yann.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors, quel sujet en une ce matin? J'imagine qu'il y a un petit retour, ou il y a un retour sur ce qui s'est passé du côté d'Alès hier.
Oui, alors c'est pas un petit retour.
Non,
malheureusement, malheureusement, nous enchaînons les faits divers tragiques après Avignon. Voici que hier matin, le fait divers tragique, un homme qui rentre dans une scierie et qui tue deux personnes, son patron et un employé. Et effectivement, c'est un fait divers qui dure puisque l'homme est toujours en fuite. Vous le savez, plus de 200 gendarmes, 3 hélicoptères, le GIGN qui est sur place. On est dans une région, on est à l'ouest d'Alès, dans le Gard, dans les Cévennes. Il y a beaucoup de forêts. C'est un chasseur, c'est quelqu'un qui va être traqué par de nombreux gendarmes. Toutes les routes sont coupées. C'est un fait divers malheureux, une prise de folie. Et donc, à partir de là, nous relatons ce triste fait divers qui s'enchaîne malheureusement dans notre région depuis quelques jours.
Oui, c'est ça, puisque Avignon, enfin beaucoup d'histoires. Autre sujet peut-être à la une, Yann?
Oui, nous avons une interview exclusive. Il faut savoir que le président de Nîmes, du club de Nîmes, qui est relégable actuellement, son président Rani Assaf, il a une parole rare. Jamais il ne s'exprime. Il ne s'exprime pas dans les journaux nationaux ni dans les journaux régionaux.
Exact.
Et pour la première fois, à Midi Libre, il nous a ouvert à cœur ouvert, grâce à nos deux compères Thierry Albin et Éric Delanzy, nos deux journalistes qui ont pu le rencontrer à table ouverte pendant 2 heures. Et la restitution, c'est 2 heures. De débat où il dit les vérités au club de Nîmes. Vous savez, c'est un financier, c'est quelqu'un qui est un chef d'entreprise et aujourd'hui son club est relégable. Il nous dit pourquoi il espère beaucoup. Vous savez, il veut faire un stade, il veut créer un stade, il met de l'argent sur la table, il y a un trou de 18 millions. Bref, il veut relever la tête et il se livre à cœur ouvert dans cette interview exclusive sur 2 pages aujourd'hui dans Midi Libre.
Merci à vous Yann Marek, rédacteur en chef de Midi Libre, d'avoir été avec nous ce matin.
Et tout de suite, la suite du petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel Et comme tous les matins, vos appels, 0826-300-300, vous attendent standard.
Oui, il y a beaucoup de questions dans l'actualité que nous allons poursuivre. On viendra tout à l'heure sur ce qui se passe au Proche-Orient, hein, avec un invité juste après 9h, avant aussi d'avoir Brice Perrier sur les origines du Covid, avec cette hypothèse, hein, de la fuite d'un labo par accident, bien sûr. Enfin, tout est possible. C'est une hypothèse, bien sûr, quoi. Mais quand même, elle a de plus en plus le vent en poupe. Alors, le Rassemblement National en tête en région PACA, la question en fait du pass sanitaire, cette candidate dévoilée, si je puis dire, hein, sur les affiches de La République En Marche, qui a suscité la polémique. Peut-être sur le pass sanitaire d'abord, parce que il y a quand même ce que vous disiez, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, ce que vous disiez tout à l'heure, Alexis Poulain. Hein.
Oui, c'est-à-dire que le vote qui était un non puis un oui, le non était fondé sur le fait qu'il n'y avait pas dans la loi le périmètre de ce pass sanitaire. Mmh. À la fois, on ne sait pas s'il va être pour les enfants obligatoire ou pas. Mmh. On ne sait pas la jauge des événements. Nulle part dans le texte, il est stipulé, c'est une jauge de 1000 personnes, et donc pour des événements en lieu clos ou quoi que ce soit. On apprend qu'il ne sera pas nécessaire pour le Tour de France, si vous voulez aller voir passer le Tour. Bref, on a l'impression que tout est fait de manière précipitée, parce que il y a le pass vert européen qui arrive en juin et qu'il faut être prêt pour être accord avec ce qui va se passer arrivé de Bruxelles, mais qu'il n'y a encore une fois aucune coordination et aucun débat réel sur le bien fondé de ce pass sanitaire. Mmh. Parce que la question, c'est comment s'assurer...
Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, justement, hier.
Très
quoi.
Court. Voilà, pour un vote à une heure, pour finalement dire, votez comme le gouvernement veut, sinon, attention. Donc, c'est quel simulacre de débat, en fait, plus qu'un débat.
Elisabeth, Éric Revel, Elisabeth.
Oui, moi, c'est sûr. Alors, moi, d'abord, sur le pass sanitaire, évidemment, ça ne peut pas être fait n'importe comment, mais ce qui me fait marrer, si vous voulez, c'est qu'à la fin, les gens vont de toute façon le prendre pour pouvoir franchir les frontières. Bah, donc, si vous voulez, tout ça est un peu... en même temps théorique, mais moi en fait ce que ça me laisse penser, c'est qu'on aurait dû rendre la vaccination obligatoire, parce que la question n'est encore pas une fois... Oui, mais on n'a pas le choix, si vous voulez, entre zéro restriction à nos libertés et l'enfermement, on a le choix entre plus ou moins de restrictions. Y a des vaccins qui sont obligatoires. D'accord, ça ne fait hurler personne, ou si ça fait... Enfin bon, moi j'étais assez favorable à cela, et si vous voulez, cette histoire de passe sanitaire, ça ne peut marcher que si ça donne des libertés supplémentaires, c'est-à-dire, oui, il y a peut-être des organismes ou des institutions qui vont vouloir s'en servir, mais ce que ça me montre plutôt, c'est qu'ils ne savent pas faire de politique, ces gens sont vraiment... C'est quand même pitoyable, quoi,
ce qui s'est passé. Éric Revel.
Une majorité absolue, ils n'arrivent pas à faire voter leur texte.
Oui. Éric Revel.
Oui, je vais rebondir sur la fin de l'intervention d'Elisabeth, sur « ils ne savent pas faire de politique », parce qu'au-delà de la question du pass sanitaire, débat, pas débat, qui est une question centrale, hein, pass sanitaire ou pas, il y a ce qui s'est passé quand même hier à l'Assemblée nationale, qui est, à mon avis, qui montre que cette majorité de l'Assemblée nationale termine le quinquennat en chaussettes. Hein. Vous avez vu que le MoDem, qui est lié de la République En Marche à l'Assemblée nationale, a d'abord voté contre le pass sanitaire, sans doute qu'il y a eu des tractations, que le MoDem de François Bayrou a obtenu des choses, et du coup, dans la nuit, comme le rappelait Alexis, ils ont voté pour.
Ouais,
donc, deux choses l'une, hein, quand on est centriste et qu'on est au MoDem, ou bien on vote contre parce qu'on pense que c'est une mesure, un papier liberticide ou qu'il n'y a pas eu de débat, mais on ne peut pas voter contre à un moment donné et 2 heures plus tard voter pour. Ça veut dire qu'en fait, le pass sanitaire, le MoDem, s'en tape complètement. Vous voyez, c'est des jeux d'appareil politique qui sont désastreux. Des petites combines un peu comme dans le sud de la France.
Ah bah tiens, on va y arriver. On y arrive. Alors il y a ce sondage notamment de l'IFOP qui donne le Rassemblement National vainqueur à tous les coups. Hein, à la suite de la semaine prochaine. En PACA.
Il y a un salarié de LR, je viens d'apprendre ça, qui vient de quitter dans le sud aussi, qui vient de quitter LR. Il était salarié. Alors, il n'est pas connu, hein, mais qui vient de quitter LR pour le RN.
Oui, pour le RN,
c'est que le début.
D'accord. Éric Revel, votre analyse, vous, qui êtes justement sur la Côte d'Azur.
Écoutez, c'est désastreux. C'est désastreux. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, le nouveau monde qu'incarnait Emmanuel Macron, c'est la vieille politique de la tambouille de la 4e République. Donc, c'est précisément ce que les électeurs, je pense, ne veulent plus, et depuis longtemps. Ils ne veulent plus de ces petites... ces petits arrangements politico, voilà. Et ce qui s'est passé dans le Sud avec une confusion, mais totale, hein, vous vous souvenez des épisodes,
ouais, oui.
La République en marche, ouais. Fait cause commune avec Renaud Muselier, liste Les Républicains, pour finalement faire deux listes. Deux listes, parce que l'argument qui était on veut faire opposition au Rassemblement National, en fait, les appareils n'en veulent pas. Et vous vous souvenez comment Renaud Muselier s'est fait un peu tirer les oreilles. Et puis, les gens n'ont pas oublié quelque chose dans le Sud quand même. C'est que Christian Estrosi, qui fait cause commune, donc le maire de Nice, qui fait cause commune avec Hubert Falco, le maire de Toulon, pour une alliance, les Républicains, La République En Marche, pour faire barrage au Rassemblement National, c'est le même Christian Estrosi. Les électeurs du Sud ont la mémoire quand même, qui en 1998 voulaient s'allier à Jean-Marie Le Pen pour empêcher que la gauche ne prenne la présidence de la région Sud, qui s'appelait PACA à l'époque. Donc si vous voulez, on est quand même dans une confusion
les temps changent,
totale.
Les temps changent.
Et ça, je pense que les électeurs ne veulent pas.
Ouais.
Alors je ne sais pas si Thierry Mariani, pour le Rassemblement National, l'emportera ou pas, mais en tout cas, ça dit quand même, en tout cas dans les sondages actuellement, c'est une photo là, au jour,
oui, bien sûr.
Hein, ça dit l'écœurement, je pense, des gens devant tout.
C'est
ça que ça veut dire.
Trahison des militants, des électeurs aussi, qui est incompréhensible, parce qu'on a besoin de clarification. C'est d'ailleurs ce que dit Christian Jacob en disant aujourd'hui, on ne peut pas continuer. Alors, certes, LR essaye de clarifier, mais le mal est fait. Et c'est incroyable de voir la facilité avec laquelle ça a été fait. Il suffit que le Premier ministre dise ah ben, finalement, on va vous aider avec notre liste qui ne pèse rien, parce que La République En Marche, sur les élections locales, ne pèse rien. Donc, je vois même pas l'intérêt stratégique de s'allier à La République En Marche quand on est Renaud Muselier,
enfin, président
sortant de région.
Enfin, 13 points, la liste de Sophie Cluzel.
Franchement, c'est étonnant. C'est un cadeau qui est fait clairement au RN, parce que Rassemblement National a la cohérence, lui, derrière lui. Il n'a pas changé de programme. Alors, un peu sur l'Europe, mais globalement, il n'y a pas eu
Elisabeth, un dernier mot, on marque
Et évidemment, la façon dont ces merveilleuses manœuvres tellement sophistiquées ont abouti à ça est assez cocasse, mais il y a aussi une question idéologique qui est là derrière. C'est qu'en réalité, idéologiquement, si vous voulez, le passage de Mariani, par exemple, montre assez bien ça, c'est que le Rassemblement National occupe un espace idéologique qui était assez largement celui du RPR, en fait, de l'époque RPR, et par ailleurs Alexis, sur un certain nombre de positions du Front National, enfin du Rassemblement National, par exemple, sur l'immigration, qui est un de ses marqueurs, excusez-moi, vous entendez aujourd'hui des gens de gauche dire des phrases qui sont exactement celles que Le Pen père prononçait il y a 30 ans. Il y a un peu le réel qui a changé aussi depuis quelques années.
Fabien Roussel, candidat communiste, qui lance sa campagne sur le thème de la sécurité. Donc oui, les choses ont changé, évidemment.
Ouais, c'est vrai. Allez, petite pause, et puis on se retrouve pour ceux qui le peuvent dans un instant.
Sans moi, qui vais encore me faire vacciner.
Vacciner. Ouh là là.
Oui.
Bon, on vous retrouve en fin de semaine ou pas, alors, quand même, hein.
C'est comment ça, en fin de semaine? J'irai faire des jongles avec Cécile.
Ouais, oui, ça. Des jongles. Je vais vous expliquer, parce que on a parlé de jongles tout à l'heure, et Elisabeth Plévy, qui est une grande connaisseuse en football, hein,
pourtant,
nous a posé la question, c'est quoi des jongles? On lui a dit,
je vais me faire les jongles.
On prend un ballon et on le fait rebondir avec le pied plusieurs fois, ou avec le jeu.
Faire du jonglage.
C'est chauffement.
Mais d'accord. J'aime bien sa phrase, je vais me faire des jongles. Faire les jongles.
Oui, absolument.
Ouais.
Et allez, vous allez vous faire vacciner contre quoi, Elisabeth Lévy?
Oui.
Oh bon. Je préfère pas le dire. Allez.
D'accord. Allez, à bientôt.
Au revoir.
On
revient
dans un instant.
Le point dans un instant sur l'info. Ensuite, on va s'interroger sur cette escalade militaire entre Israël et le Hamas. Et puis, vos appels 0826-300-300 et Brice Perrier qui sera avec nous sur ce livre, Aux origines du mal, sur le coronavirus. Les hypothèses, notamment les hypothèses, pas une fabrication du coronavirus en tant que tel, quoi, volontaire, quoi, mais en revanche, peut-être une fuite, un accident industriel.
En tout cas, comment le Covid-19 a contaminé les êtres humains.
La Chine qui a quand même bien étouffé l'affaire.
Ouais, et bien verrouillé. On en parlera avec lui dans quelques instants. Vous voulez réagir, bien entendu, 0826-300-300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h06, restez avec nous. Dans quelques minutes, on reviendra sur cette pandémie. Et les questions qui restent en suspens avec ce livre, hein, SARS-CoV-2 aux origines du mal. Voilà, comment le Covid-19 a-t-il émergé et contaminé les premiers humains? Brice Perrier sera avec nous. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire 0826-300-300 pour lui poser des questions. En attendant la suite du petit déjeuner de l'actu, on va revenir sur l'escalade militaire entre Israël et le Hamas, qui provoque bien sûr forcément beaucoup de morts et de blessés. Comment expliquer cette flambée de la violence? Avec nous pour en parler, Pascal Boniface, qui est directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour Pascal Boniface. Alors, avant de voir ce qui se passe, parce qu'il y a eu l'escalade encore hier soir, cette nuit, etc., revenons peut-être un peu sur le déclenchement. Quelle est l'étincelle qui a vraiment mis le feu aux poudres, si je puis dire, cette flambée de violence entre l'État israélien et le Hamas, Pascal Boniface?
Disons qu'il y a eu plusieurs étincelles et il y a un grand baril de poudre, puisque beaucoup de gens disaient que suite aux accords d'Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis, puis ensuite avec le Maroc, la question était réglée. Mais là, c'est une question entre parties qui ne sont pas en conflit. Israël n'était pas en conflit ni avec le Maroc, ni avec les Émirats arabes unis. Et la question palestinienne n'était pas réglée, loin de là. Et donc, on peut dire qu'il y a eu plusieurs escalades. D'une part, la campagne électorale israélienne avec l'entrée de l'extrême droite à la Knesset suite à un accord avec Netanyahou pour préserver le pouvoir de Benjamin Netanyahou. Ensuite, des manifestations, disons, violentes, non pas dans physiquement, mais violentes dans les propos, avec des manifestants extrémistes israéliens criant « mort aux Arabes » dans Jérusalem. Et puis, un débat qui n'est pas simplement un débat foncier sur l'expulsion de familles palestiniennes sur des immeubles qui sont réclamés par les Israéliens, qui estiment avoir des titres de propriété antérieurs à 1948.
À Jérusalem-Est, Pascal Boniface.
C'est ça, à Jérusalem-Est.
Qui est toujours le nœud, en fait.
Qui est le nœud, et surtout ce quartier-là, puisque pour les Palestiniens et officiellement pour la communauté internationale, Jérusalem-Est devrait être la capitale d'un futur État palestinien le jour où il sera créé, mais ce jour est de plus en plus lointain, alors que du côté israélien, Jérusalem est unifiée et la capitale Est comme Ouest de l'État d'Israël. Donc il y a effectivement des positions qui sont fondamentalement antagonistes sur Jérusalem.
Ouais. Comment se fait-il que la communauté internationale n'ait pas réagi plus tôt? Puisque là, il va y avoir une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, et ça fait quand même plusieurs jours, grosso modo une semaine, que vraiment il y a la tension de plus en plus forte avec des violences, et même avant, on le sentait venir, quoi, Pascal Boniface.
Oui, disons que dès qu'il y a un conflit, on peut dire que la communauté internationale se met aux abonnés absents. Ça a été le cas en 2009 ou en 2014, où il y a eu à chaque fois environ 2000 morts à Gaza et quelques morts du côté israélien. Et la communauté internationale, ou la prétendue communauté internationale, ne s'est réellement mis en branle qu'une fois qu'on avait atteint un certain nombre de morts. Et là, c'est un peu la même chose. Au début, on dit, ce sont des escarmouches, on parle de heurts entre Israéliens et Palestiniens. Et puis tout d'un coup, ça s'emballe, ça s'accélère, et c'est déjà un peu le cas. Puisque là, le nombre de morts augmente, 5 morts côté israélien, 35 côté palestinien. On n'en est qu'au deuxième jour où il y a de nombre de morts et on ne peut pas exclure une escalade supplémentaire.
Oui.
Et donc, la communauté internationale, en fait, a délaissé ce conflit depuis longtemps et laisse un petit peu Israéliens et Palestiniens régler leurs affaires. Et ni les pays arabes, ni les Européens ne veulent vraiment s'en préoccuper. Et quant aux États-Unis, l'agenda de Biden était plutôt concentré sur la Chine que sur le Proche-Orient. Ça fait déjà longtemps que les Américains voudraient être débarrassés de ce problème. En fait, il leur revient en pleine face à chaque fois.
Oui, et Pascal Boniface, est-ce qu'il n'y a pas aussi une exploitation politique, là je ne parle pas au niveau international, mais localement, ou en tout cas dans la région, exploitation politique entre d'un côté Israël, vous l'avez dit, avec une droite plus dure, et puis aussi les radicaux du côté des Palestiniens et du monde arabe?
Bien sûr, parce qu'il y a une crise de leadership aussi bien en Israël que pour les Palestiniens. Côté israélien, il y a eu 4 élections en 2 ans et toujours pas de gouvernement. Et Netanyahou est attaqué pour des corruptions. Il sait que s'il perd son poste de Premier ministre, il risque d'aller dans la casse-prison. Quand du côté palestinien, les Palestiniens sont divisés entre Mahmoud Abbas, qui a été élu en 2005, donc qui n'est pas du tout, qui a 85 ans, qui n'est plus légitime aux yeux des Palestiniens, notamment auprès de la jeunesse palestinienne, parce qu'il est accusé à la fois d'immobilisme et de corruption. Mmh. Et le Hamas ne séduit que très partiellement une partie des Palestiniens. Donc il y a effectivement une crise de représentation. Puis on peut dire que les autres acteurs, utilisent aussi cela à des fins. Ce conflit est instrumentalisé de toutes parts, évidemment. Ouais. Et c'est pour cela aussi que les choses changent, parce que les Arabes qui se sont révoltés à Jérusalem ne sont pas des militants du Hamas. Ils se sont mobilisés, mais effectivement, il y a aussi une lutte interne politique, aussi bien en Israël qu'en Palestine.
Oui. Est-ce que la France devrait s'en mêler, se positionner et puis derrière ça, eh bien, il y a les possibles répercussions également sur notre territoire. À chaque fois,
oui,
on redoute.
Bien sûr, on sait que la question est très sensible et qu'il y a une importation du conflit israélo-palestinien et que dans votre métier, il est très difficile d'en parler calmement, sereinement. Il y a des pressions de toutes parts et c'est un conflit que l'on importe alors qu'on devrait pouvoir en parler. Parce que si on n'en parle pas dans des médias comme chez vous, les thèses complotistes vont être beaucoup plus fortes. Donc on doit aborder très sereinement et très calmement ces questions-là, dans un débat qui peut être un débat contradictoire, parce que chacun peut avoir des positions différentes, mais sans insulte immédiate dès qu'on est en désaccord, ce qui n'est pas le cas. Côté français, il faut reconnaître que la France est nettement moins active sur ce dossier qu'elle ne le fut dans le passé. On peut dire que tant De Gaulle que Mitterrand et que Chirac s'étaient beaucoup investis sur ce dossier, et que depuis les trois derniers présidents, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, il y a le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose, qu'il n'y a que des coups à prendre, que c'est compliqué, que ça ne sert à rien. Et donc, il y a une diplomatie française qui est nettement moins active et flamboyante, pourrait-on dire, qu'elle ne le fut dans le passé.
Merci beaucoup, hein, Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, hein, l'IRIS, et spécialiste du conflit israélo-palestinien. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, Cécile.
Oui, dans un instant, on va revenir sur une enquête qui dure depuis plus d'un an pour essayer de comprendre justement les origines du mal, le SARS-CoV-2 qui sera dans le monde entier
s'est-il vraiment passé?
Exactement. Et on va
d'où
revenir
vient
sur
le virus
ces
du
thèses,
Covid.
Oui, absolument. Savoir comment c'est arrivé jusqu'à l'humain dans un instant avec Brice Perrier. Ça s'appelle SARS-CoV-2 aux origines du mal. À tout de suite.